franceinter.com.
Oui, bonjour, c'est Saïd, dans le Lot. La France a été placée sous deux médicaments assez dangereux, la sarcosine et le fépalcon. La sarcosine, ça agit un peu comme la drogue des violeurs, sauf que c'est une drogue politique. On ne s'aperçoit de rien. Le fépalcon, c'est à base d'angoisse, de risque de chômage et de répression. En Tunisie, ils avaient de la bénaline et du fépalcon. Dès qu'ils ont arrêté de prendre la bénaline, le fépalcon a cessé ses effets et on a vu ce qui s'est passé. En Égypte, ils étaient sous Moubarakine. Pareil, ils ont arrêté d'en prendre et ça bouge. Donc en France, si on arrête de prendre de la sarcosine et du fépalcon, ça pourrait bouger. Je vous embrasse, salut.
Salut les fraternités, bon, nous voici en direct du rectorat de Paris. Donc la case du service public se poursuit. Nous sommes un groupe d'enseignants d'un établissement soins études qui est à la fois une clinique psychiatrique de la Fondation Santé des étudiants de France et en même temps l'annexe du lycée Claude Monet. Le rectorat vient d'annoncer une baisse de 18% des moyens enseignants sur la structure. Le rectorat de Paris semble se désengager petit à petit du service public d'éducation auprès des jeunes malades souffrant de troubles psychiatriques qui risquent d'être complètement exclus du système scolaire. Dans le même temps, le Premier ministre a soutenu l'ouverture d'une clinique psychiatrique du même type dans la Sarthe. Voilà, bon entendeur, salut. Au revoir.
Non aux suppressions de postes, budget 2011, jeu de massacre du gouvernement, non à la casse de l'école publique. 19e arrondissement devant le rectorat de Paris, il y a de la contestation dans l'air.
En fait, il y a des projets de suppression de classe dans 77 écoles de Paris. Enfin, 77 suppressions de classe. Et nous, on représente l'école Torcy, qui se trouve dans l'Est parisien, quartier Marx d'Ormois, un quartier très difficile. Ça met à mal notre politique d'éducation, qui nécessite beaucoup de temps pour les enfants. Parce qu'on a beaucoup d'enfants allophones, c'est-à-dire qui n'ont pas la langue française comme langue maternelle. On a 14 enfants francophones purs. Donc c'est très difficile pour les autres d'apprendre les autres matières que le français, et le français en particulier. Il y a aussi le réseau d'aide aux enfants en difficulté, dont des postes vont être supprimés également. Donc voilà, ça s'accumule, ça devient très très compliqué d'enseigner dans ces quartiers-là, et c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui.
Normalement, le dispositif pour recevoir les délégations du premier degré va reprendre.
Les enseignants de Paris sont pas très contents parce que dans le premier degré, on leur supprime 77 postes pour la rentrée prochaine, alors qu'on attend 600 élèves de plus à la rentrée. Alors les postes touchés sont principalement des postes de remplacement, ce qui va encore aggraver la situation du remplacement dans les écoles, et des postes de RASED, réseau d'aide aux enfants en difficulté. Il faut se rappeler qu'il y a deux ans, on avait déjà supprimé 3000 postes. On avait réussi, grâce à la mobilisation, à récupérer 1500 postes sur les 3000. Et là, aujourd'hui, ils reviennent à la charge et ils suppriment encore 36 postes sur Paris. Et je pense qu'au niveau de la France entière, ça sera à peu près les 1500 qu'on avait gagnés il y a deux ans.
Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui?
Toute cette réforme de suppression de postes qui fait que des classes surchargées, des profs qui ne pourront absolument pas faire des cours corrects, enfin voilà, des mesures qui mettent à mal l'éducation publique pour tous, dans de bonnes conditions.
Et vous venez ici en tant que
Élève du lycée Jules Ferry en Cagnes. C'est place Clichy dans le 9e. Je crois qu'en fin de compte, ça fait 4 postes supprimés pour le lycée, 15 heures perdues pour les 4 classes de prépa, donc des suppressions d'options, des suppressions de classes, une 6e et une 1ère.
Jeudi 10 février, jour de colère, jour de manifestation contre la casse de l'éducation nationale. Oui, nous manifestons notre colère, car il y en a marre de voir les élèves sacrifiés et les profs broyés à cause des classes surchargées. On en a marre de voir des profs qui veulent transmettre leur culture qui ne peuvent le faire à cause des classes surchargées. Pour toutes ces raisons, nous sommes nombreux ce jeudi à manifester notre ras-le-bol ici, à Lille, comme ailleurs en France. L'Assemblée Générale Interétablissement de Roubaix-Tourcoing-Motrelot appelle à manifester samedi 12 février, Grand Place de Tourcoing, à 15h. Nous appelons tous les élèves, les parents d'élèves, les enseignants à venir manifester leur colère le samedi 12 février, Grand Place de Tourcoing, à 15h. Nous y ferons des animations surprises sur notre bon ministre de l'Éducation et tous ceux assez heureux comme la rectrice. Venez nombreux. Ce rassemblement est organisé par l'Assemblée Générale Interétablissement de Tourcoing-Ouettrelot. Ce n'est qu'un début. À bientôt.
Bonjour, Gilles d'Antibes. C'est au sujet, évidemment, du gendarme d'Andouze. Je voulais savoir si Michèle Alliot-Marie, quand elle a proposé à M. Ben Ali de recevoir une aide militaire ou gendarmeresque, avait pensé à ce monsieur. Tout simplement, une petite question qui m'est venue, parce qu'on en envoie deux comme ça, c'est tout le continent africain qui se révolte. Merci.
Petit renseignement généreux. Hier, j'ai regardé sur la chaîne LCP le repas d'anniversaire du CRIF. 800 personnes environ. Nos ministres et notre président étaient présents. Quelques socialistes, Hollande, Hamon, Delanoë. J'y ai appris que les communistes et les Verts n'ont pas reçu d'invitation. Et oui, on ne critique pas la politique d'extrême droite d'Israël. On peut critiquer toutes les politiques d'extrême droite à travers le monde, mais pas tous à celle d'Israël. Salut, bonne journée.
Salut Daniel, salut les AMG, salut tout le monde. On regarde souvent France Inter et on écoute plutôt avec un œil très critique, des commentaires très sévères. Aujourd'hui, je dois dire que je me suis régalé. Bravo là, sur le coup. Audrey Pulvar ce matin, 6h25, qui nous a gratifié vraiment, vraiment sur le coup d'un reportage sensationnel, mais court, sur la descente aux enfers d'un petit porteur. Il faut écouter ça, c'est magnifique. Et le gars termine en disant, on devrait pouvoir se faire interdire de bourse comme on se fait interdire de casino, le système est pourri. Merci Audrey Pulvar, surtout pour le message subliminal, en fond musical, il y avait l'Arlésienne. Allez, salut à tous, bon courage. Ciao.
Alors ce soir, monsieur Nicolas va s'adresser aux Français. Voilà, il va répondre aux questions des Français à un panel. Alors, premier problème, c'est que le panel, il est choisi par TF1. Voilà. Et puis par l'Élysée, bien sûr, derrière, en sous-main. Et puis, le deuxième problème, celui qui est de taille, c'est que TF1, c'est la chaîne qui appartient au groupe Bouygues. Et le groupe Bouygues travaille essentiellement pour qui? Pour l'État. Et oui, toutes ces commandes d'État qui sont passées au groupe Bouygues. Donc, ce groupe privé, qui n'a qu'une idée en tête, c'est de faire de l'argent, hein, c'est son but, après tout, on ne va pas non plus lui reprocher, c'est comme ça que ça fonctionne, ne va pas se mettre mal avec son principal client, qui est l'État. Ce n'est pas son actionnaire dans ce cas-là, c'est son client, c'est encore pire qu'un actionnaire. Monsieur Nicolas Sarkozy, quand il va à TF1, il est chez lui. D'ailleurs, il a un de ses anciens conseillers qui est directeur des programmes à TF1. Vous savez qu'on est quand même un des rares pays d'Europe où une telle chose est tolérable, c'est-à-dire qu'une grande chaîne privée appartient à un groupe qui a des marchés publics. C'est absolument interdit en Angleterre, c'est absolument interdit en Espagne, c'est absolument interdit en Allemagne. Bon, je ne parle pas de l'Italie, parce que l'Italie, c'est l'Italie, hein, ça fait rêver. Mais voilà, en France, c'est comme ça. Donc ce soir, ne regardez pas cette émission, faites autre chose. Au revoir.
Bon, d'accord, ben on ne sait pas très bien ce qu'on fera. On va être un peu perdu si on regarde pas ça, mais bon, on trouvera. Je pense qu'on trouvera. Aujourd'hui, dans la base, j'y suis, la sécurité sociale, les retraites, les comités d'entreprise, la médecine du travail, les conventions collectives. Est-ce que vous mettez un homme sur tous ces mots? Est-ce que vous mettez un nom sur tous ces mots? Eh bien, il y en a un qui est fort oublié, qui s'appelle Ambroise Croizat. Ah oui, oui, vous connaissez un lycée Ambroise Croizat, vous connaissez une rue Ambroise Croizat, mais qui était ce Ambroise Croizat? Eh bien, dans quelques jours, le 17 février, sera célébré le 60e anniversaire de sa mort, la mort d'Ambroise Croizat. Mais qui était-il de son vivant? Eh bien, on s'est penché sur cette histoire. Et c'est une histoire singulière. Ambroise Croizat fut un militant syndical. Il fut ministre à la Libération. Et il est un des grands acteurs, un de ceux qui a institué la sécurité sociale en France. Tout ce dont je vous parle, sécurité sociale, retraite, comité d'entreprise, convention collective, médecine du travail, c'est-à-dire toutes ces inventions sociales, tous ces acquis sociaux, tous ces conquis sociaux, eh bien, Ambroise Croizat y est pour beaucoup. Or, ce nom ne dit pas grand-chose à nos contemporains ni à nos enfants. Comme d'ailleurs tous les noms des lutteurs sociaux, de tous ceux qui, dont le nom est associé à ces luttes sociales, à notre histoire sociale. Notre histoire sociale est très peu connue, très mal connue, et sans doute pas pour... c'est pas pour rien. on est un pays de lutte sociale, on est un pays de lutte idéologique. On est un pays de guerre des idées, et cette guerre des idées a fait que ben, ce nom a été gommé, a été effacé de la photo, de l'histoire de France, de cette histoire du XXe siècle. Voilà pourquoi, avec François Ruffin, aujourd'hui, on va évoquer Ambroise Croizat, pas seulement avec François Ruffin, mais avec Michel Etiévant, qui est un historien. Voilà notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Je voudrais vous dire encore merci pour votre émission d'aujourd'hui. Alors, l'interview, ce que vous avez fait avec le monde diplomatique, que je ne reçois pas, je suis abonnée au Monde, mais pas au monde diplomatique. Ce que j'ai appris aujourd'hui par Maurice Lemoine m'a énormément impressionnée. Alors là, c'était une panoplie de ce qui se passe dans notre monde. Alors, continuez comme ça. Franchement, votre émission, elle est super bien. Je voudrais une fois que vous fassiez une émission sur Jafar Panahi, ce cinéaste iranien à qui on coupe la parole. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.
Un bateau français pour Gaza. Un bateau français pour apporter de l'aide humanitaire aux populations de Gaza. Un bateau français qui partirait au mois de mai et qui se joindrait à la flottille internationale en vue de briser le blocus israélien de Gaza. Si nous sommes 20 000 à mettre 10 euros chacun, nous aurons le bateau qui revient à 200 000 euros. Rendez-vous sur le site unbateaupourgaza.fr, un bateau pour Gaza tout attaché, pour que cette initiative pour la liberté et la dignité se concrétise. Jocelyne de Lyon.
Salut Daniel, salut les AMG de l'Isère. C'est Claude du repère de Saint-Bernard-du-Touvet. Le prochain rendez-vous aura lieu vendredi 11 février au Sabot des Muses à 18h30. Venez nombreux, on vous attend.
Bonjour Daniel, ce matin le soldat Bernard est venu beugler sur France Inter pour sauver les dictateurs fidèles à ses habitudes en brandissant les islamistes, fascistes, terroristes. Désolé pour vous, monsieur Bernard. Au moins en Algérie, on sait maintenant qui a égorgé et qui a terrorisé les Algériens. Bien sûr, c'était vos amis, les généraux, que vous avez soutenus et qui sont encore au pouvoir. Et bien sûr, les gouvernements français les a soutenus et les soutiennent toujours jusqu'à présent. C'est Nabila Duvar.
Qu'est-ce que la sécurité sociale ?
Radiodiffusion française.
Eh bien, c'est un ensemble de dispositions législatives, c'est-à-dire légales.
1er juin 1946.
Qui garantissent les travailleurs contre les risques de maladie, d'accident, d'invalidité, de vieillesse ou même de décès. Et ces risques sont assez bien illustrés à ce stand de la sécurité sociale au service de la Renaissance française. Et je vais me permettre de vous les décrire. Le premier est dédié à la maternité. Il représente une femme tenant un bébé dans ses bras et il est indiqué que la sécurité sociale a pour but et pour objet d'assurer le repos de la mère, la santé de l'enfant et la sécurité de la famille. Le panneau d'à côté représente un homme qui est couché, qui est alité et c'est l'illustration de l'assurance du risque maladie. Enfin, le troisième panneau représente deux bons vieux, l'homme appuyé sur sa canne, la femme tenant un matou dans ses bras. Et c'est la vieillesse, la sécurité des vieux jours. Et le panneau central rappelle que la loi Croizat, puisque c'est M. Ambroise Croizat, ministre du Travail, qui a mis son nom sur cet ensemble de dispositions légales appelées la sécurité sociale, la loi Croizat étend à tous les Français cette sécurité en libérant le travailleur de la hantise du lendemain et en écartant la misère de son foyer.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec François Ruffin et Michel Etiévant, Ambroise Croizat.
Flight number 2, arriving from New York.
Là, je descends du train à Albertville, Daniel. Je sais pas si tu te souviens, mais il y a 15 jours, on était déjà passé à Albertville, où les caissières faisaient grève, et elles le font encore tous les dimanches, devant le parking 2D. Et là, sur le parking 2D, j'avais rencontré Michel Etiévant, un historien du coin, qui nous avait raconté comment le repos dominical avait été, non pas donné, accordé par le gouvernement, mais arraché de haute lutte, notamment après des manifestations monstres, des émeutes en 1906. Et hors micro, comme ça, en passant, il m'avait dit que Ambroise Croizat était né à côté d'ici, à Notre-Dame de Briançon. Alors Ambroise Croizat, si ça se trouve, ça vous dit rien. Et c'est déjà incroyable que ça vous dise rien, que ça nous dise rien. Je veux dire, son nom, on devrait le connaître par cœur, l'apprendre à l'école, comme celui de Juste Ferry, par exemple. Ambroise Croizat, c'est le ministre qui, à la Libération, crée la sécurité sociale, crée les retraites. Bon, il ne les crée pas tout seul. Hein. Non, on va le voir, c'est tout un peuple qu'il conquiert, qu'il arrache derrière lui. Enfin, c'est lui quand même qui signe les décrets. Et pourtant, l'histoire n'a pas tellement retenu son nom. Il ne figure nulle part dans les manuels scolaires. Et cette année, 60e anniversaire de sa mort, je pense pas qu'il y aura de célébration, de commémoration. C'est comme si, en même temps qu'on détruit son œuvre, la sécurité sociale, les retraites, il fallait oublier son nom. Alors voilà, aujourd'hui, je descends du train de nuit à nouveau à Albertville. Je vais prendre le car pour Notre-Dame de Briançon, pour qu'on l'oublie pas, cette page de notre histoire populaire, pour qu'on s'en souvienne de cet homme, Ambroise Croizat, et des millions d'autres qui ont poussé avec lui pour qu'on ait ce trésor, la sécurité sociale, les retraites. Lui-même disait qu'il fallait jamais considérer ça comme acquis, parce que le patronat ne désarme jamais.
Vous êtes très nombreux à reconnaître les notes qui sont sous ma voix, cette musique qui est sous ma voix déjà. Très nombreux. Et peu, par contre, à connaître Ambroise Croizat. Qui était ce bonhomme? Quelle était cette époque? Bien sûr qu'il n'est pas celui qui a inventé la sécurité sociale, pas plus que les retraites, les comités d'entreprise, la médecine du travail, les conventions collectives, mais il est celui où il était dans le gouvernement et dans le mouvement qui a réussi à imposer ça, à permettre ça, à faire en sorte que les Français, le moindre des Français, puisse profiter de ça, le moindre des Français, c'est-à-dire le plus vulnérable, la personne âgée, isolée, tous puissent avoir ces mêmes droits à la santé, à la retraite, à la médecine et à l'intérieur du travail, aux conventions collectives et aux comités d'entreprise. C'est évidemment un progrès social formidable qui doit être lié au nom d'Ambroise Croizat. Et encore une fois, un nom qui a été gommé, qui a été chassé de la photo. Pourquoi ? Compliqué de le dire. Peut-être parce que Ambroise Croizat était communiste. C'est peut-être la raison. Il y a eu une sorte d'épuration. Peut-être parce que aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques années déjà, il y a un rouleau compresseur qui vise à détruire tous ces conquis sociaux, conquis de haute lutte, on aurait dû intituler cette émission « Haute lutte ». Lutte qui, évidemment, suivent des luttes très anciennes pour la solidarité, pour, à travers les corporations jadis, les hommes, à l'intérieur de leur métier, et les femmes, à l'intérieur de leur métier, avaient éprouvé le besoin de cette solidarité, la nécessité des solidarités. Mais il avait fallu la Révolution française, il avait fallu toutes les luttes du 19e siècle et celle du 20e siècle pour arriver à ce que ça devienne un droit universel pour tous, chacun, avec une part payée par le patronat, une autre part payée par les salariés eux-mêmes. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça a été possible à ce moment-là, à la Libération? On a évoqué souvent dans cette émission le CNR, le Conseil National de la Résistance. Il y avait simplement que durant la Deuxième Guerre mondiale, les forces de l'argent, les forces du capital, les forces du patronat s'étaient complètement vautrées dans la collaboration et étaient complètement discréditées après à la Libération. Et tout ce qui s'était passé, toutes les horreurs que les Français avaient vécues, et pas seulement les Français bien sûr, avaient vécues, incitaient à l'égalité, à la justice, à la solidarité. Il y a eu un moment historique, une fenêtre, une brèche qui a permis que ces lois, ces décrets puissent être mis en place et mis aussi en application. Bien sûr, depuis, les forces de l'argent ont repris peu à peu peu du terrain, ont regagné du terrain, ont pris leur revanche. Et aujourd'hui, ben, la lutte continue dans ce domaine. Il est très probable que dans les mois qui viennent, la question de ces conquis sociaux va être à nouveau au centre de nos préoccupations, comme l'an passé, les retraites l'ont été. D'où l'intérêt de revenir en arrière, de comprendre que tout ça a une histoire et que cette histoire peut être incarnée par cet homme, Ambroise Croizat.
C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire. Quand le temps d'une mascarade, il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade, pour qu'il revive à jamais. Ce mari cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai.
On est sur le parking devant Carbone Savoie. Oui. Donc c'est la grosse boîte de Notre-Dame de Briançon, la grande boîte de la Tarentaise. On est cerné par les montagnes. Alors c'est les montagnes autour de nous, mais ce n'est pas les montagnes versant super naturel. Non. On a une autoroute qui nous passe au-dessus de la tête.
C'est une autoroute qui a été faite pour les Jeux Olympiques de 92, des Jeux d'hiver.
Et toutes les maisons sont grisâtres, sans doute à cause de la fumée, du dérogé de carbone de l'usine.
La fumée, ça faisait partie complètement de nos enfances. Par exemple, le principal travail que j'avais à faire pour ma mère quand je revenais de l'école, c'était de nettoyer les fils d'étendage. Parce que sinon, elle ne pouvait pas étendre son linge tellement les fils étaient noirs.
Et donc là, il faut imaginer, sur là où il ne reste plus qu'un parking, parce que l'usine a avancé, mais là, il faut imaginer un quartier populaire où naît Ambroise Croizat et où toi aussi, tu grandis.
Voilà. Moi, je suis né, enfin, j'ai été élevé dans la maison même où il est né. Lui en 1901, moi en 1947. Et très tôt, c'est peut-être l'âge de 4 ou 5 ans, les premiers souvenirs, je me souviens de ces gens qui en parlaient avec des yeux qui pétillaient de cet homme. Tout simplement parce qu'il avait apporté dans le quartier ce qu'ils appelaient, eux, la dignité. C'est-à-dire la sécurité sociale et les retraites. Deux réformes énormes qui vont complètement bouleverser leur vie. Et cette dignité dont il parlait, moi je la voyais concrètement dans les yeux, dans la chair de ces gens. Les corps à la libération, ils s'étaient relevés. D'un seul coup, on avait le droit de se soigner.
Voilà, voilà, Michel Etiévant, historien, ancré dans ce paysage, ancré dans cette petite ville de Notre-Dame de Briançon, et qui est un formidable connaisseur de la vie d'Ambroise Croizat, et qui rappelle tout à fait que nous n'avons pas une histoire populaire française. Mais non, on a rencontré, vous souvenez, Howard Zinn, l'historien américain, auteur de Une histoire populaire des États-Unis, un best-seller aux États-Unis et qui devient un best-seller mondial et qui raconte, voilà, l'histoire des luttes, l'histoire populaire des États-Unis d'Amérique. Et nous, ce vieux pays si savant, si malin, eh bien, on n'a pas ça. On n'a pas l'équivalent d'une histoire populaire française. Non, toujours pas. Et certainement pas contemporaine. Alors voilà, il faudrait demander à des historiens comme Michel Etiévan de raconter toute l'histoire. En tous les cas, voilà un fragment extrêmement précieux et étrangement oublié, l'histoire d'Ambroise Croizat.
Qu'est-ce qu'il fait ici?
Oui.
À Notre-Dame de Briançon.
C'est simple, hein. On est en 1895, on vient d'inventer en France le four électrique. On voit arriver des tas de gens qui viennent de partout monter des fours. Et parmi eux, venant de Chambéry, il y a Antoine Croizat, qui est le père d'Ambroise Croizat. Et il s'embauche dans l'usine comme manœuvre. À l'époque, le manœuvre, c'est 12 heures par jour, à taper sur des bidons de carbure, devant des fours, directement face à ces coulées de 1500 degrés, où tu n'as aucune protection, pas de tablier de cuir, et donc l'accident est quotidien. En 1906, donc, il y a une série d'accidents, et là, il y a vraiment une révolte, quoi. On voit que le père Croizat, il n'en peut plus, et on lit dans les archives de la police la chose suivante. Aujourd'hui, 21 mars 1906, on voit sortir de l'usine, drapeau rouge en tête, 7 ouvriers, dont Antoine Croizat, et ils réclament la création d'une caisse de secours, et ils viennent de se faire licencier pour avoir réclamé la caisse de secours.
Donc là, déjà, le père de Ambroise Croizat, Antoine Croizat, finalement, il réclame une amorce de sécurité sociale locale pour une usine. Voilà. Mais enfin, il réclame un début de sécurité sociale.
Il réclame vraiment, c'est l'embryon de la sécurité sociale. Et là, il se fait licencier. Aussitôt, un mouvement de grève suit. La grève, elle s'étend. Il y a une solidarité importante parce qu'il y a d'autres usines dans la vallée. Les usines de Pombilière, de Labatie, d'Ugine suivent la grève parce qu'ils sentent que là peut naître quelque chose. Et la grève va durer 7 jours. Et au bout des 7 jours, le patron doit plier. Et dans les négociations, on dit, ben voilà, on reconnaît le syndicat, une augmentation de salaire importante, mais surtout, alors ça c'est étonnant, 3 jours de congé. On donne 3 jours de congé aux ouvriers. C'est jamais arrivé. Mais on ne reprend pas Antoine Croizat. Il est muté dans une autre usine du groupe. Et dans la délibération, il est dit la chose suivante, l'ouvrier Croizat accepta son sacrifice.
On va passer sur le passage à niveau.
Et là, on va se retrouver devant la gare où la famille Croizat, Antoine Croizat en tête, Louise, sa femme, les enfants, dont Ambroise, quittent Notre-Dame de Briançon après le licenciement du père. Et ça se passe le 28 mars 1906, après la semaine de grève qui a permis d'obtenir les 3 jours de congé.
Alors, et c'est à la fois un départ triste et en même temps, c'est un triomphe. Parce qu'ils sont accompagnés sur le quai de gare, 300 ouvriers.
Et moi, j'imagine toujours le fils Croizat regardant s'éloigner le train de Briançon. Et il ne va pas y revenir pendant très longtemps, sauf en 1946, où là, il reviendra en tant que ministre de la Sécurité sociale, achevant là les premières batailles du père 40 ans auparavant.
Révoltez-vous, Paris a des usines, revendiquez le prix de votre labour. Emparez-vous des outils, des machines, comme à la peine aucun soyez égaux. C'est par vos bras, vos cerveaux qui fatiguent, que le bonheur ici-bas serait beau. Ne criez plus contre ceux qui l'endiguent, brisez la digue, il s'étendra partout. Révolution pour que la terre soit un séjour égalitaire. Révolution pour renverser qui peut nous oppresser. Révolution pour que les sciences en paix nous donnent leur jouissance par la révolution.
Je sais pas si Antoine Croizat, il allait boire des cafés au bistrot à côté
là,
de la gare.
Là, il y avait. Hein. On va rentrer dans un café. Et à l'époque, le café existait, puisque c'était le café de la gare.
On peut imaginer qu'Antoine Croizat, il venait boire un coup.
Moi, je suis sûr même qu'au départ, ils sont allés boire un grand pot avant de partir, monter dans le train pour partir vers l'usine d'Ugine après la grève, quoi. Avec la musique, la fanfare, le rouge qui fait chanter.
Qu'est-ce qu'il y a ? Bonjour. On est au bistrot, il s'appelle comment le bistrot ?
Le Capricorne.
À côté de la gare de Notre-Dame de Briançon. Est-ce que vous savez qui est Ambroise Croizat ici ?
Avant de venir travailler ici, je ne savais pas qui était Ambroise Croizat et je ne savais pas qu'il était né ici. On n'en parle pas à l'école non plus. La sécu, c'est pas rien. Premier client qui m'a dit « Tu sais qui c'est Ambroise Croizat ?» Non, je ne sais pas qui c'est. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas vous, amie, qui m'avez dit « Mais Ambroise Croizat, c'est le fondateur de la sécu. » Je dis « Tiens, je serai moins bête. »
C'est avec fierté qu'on le dit, parce que c'est quand même la sécurité sociale, c'est pas rien. Ils disent « Ah bon, les gens, c'est pas possible. Si, si, il est de Notre-Dame. » Ils savent pas qu'ils croient que la sécurité sociale, ça a été créé comme ça, mais non, pas un monsieur. Elle a été créée.
Mais alors, vous savez qu'on dit c'est Ambroise Croizat ?
Pas du tout, pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Moi, je suis bourguignon, j'ai rien à voir avec M. Ambroise Croizat, donc... Ouais, mais enfin, c'est à Notre-Dame qu'on en parle. Chez moi, on n'en parle pas, je veux dire.
Vous allez vous faire soigner par le toubib de temps en temps ?
Bon, oui, je dis, bon, on a dû aller chez le médecin depuis qu'on est là, oui. Pourquoi ? Quel rapport ? Le médecin. La sécu ? Non, j'ai pas fait de rapprochement, jamais. Pas plus que ça. C'est pas ma culture, c'est pas ma région, alors c'est vrai que j'ai un peu...
Ouais, mais c'est la France, la sécurité sociale, les retraites, c'est pas seulement Notre-Dame de Briançon. Jules Ferry, c'est l'école, c'est pour toute la France, c'est pas seulement
on connaît plus Jules Ferry qu'Ambroise Croizat, pour être honnête, alors moi je sais pas, ça dépend ce qu'on vous a appris à l'école, hein, à la petite école.
C'est comme si, pour détruire petit à petit la sécurité sociale, il fallait qu'elle soit pas incarnée par un homme.
Oui.
Vous voyez, comme si c'était une idée désincarnée, et à ce moment-là, on peut la combattre, enfin, on peut détruire l'œuvre plus facilement quand on... On ne donne pas le sentiment qu'elle a été fabriquée par des hommes.
Oui, et puis quand il y a un vide idéologique étonnant. Quand tu regardes, prendre dans les livres scolaires, tu as un oubli complet. Tu regardes dans le dictionnaire. Quand tu vas dans le dictionnaire, tu t'attends à le trouver quand même. Fondateur de la sécu, comité d'entreprise, les allocations familiales. Tu te dis, il est sûrement présent dans le dictionnaire. Or, à sa place dans le dictionnaire, il y a un homme qui s'appelle Croisy. Et c'était un lieutenant de Louis XIV. Hein.
Il n'y a pas Croizat.
Il n'y a pas Croizat, il n'y a pas Paul. Tu peux trouver Eric Azaray, Johnny Hallyday, mais tu ne trouveras pas Ambroise Croizat. Et c'est la même chose dans les livres scolaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas reprocher aux enfants ou aux gens de ne pas connaître Ambroise Croizat. C'est une autre planète, il n'existe pas.
C'est comme si, comme vous dites, le lieutenant de Louis XIV se trouve dans le dictionnaire et pas Ambroise Croizat. Mmh. C'est comme s'il y avait une histoire ou une mémoire sélective.
Voilà.
Et tout ce qui relevait de la mémoire bourgeoise, entre guillemets, elle était présente dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, dans les manuels scolaires. Et en revanche, tout ce qui relevait de l'histoire populaire, elle en était effacée.
Elle est vidée.
Eh bien voilà, ça dépend de ce qu'on vous a appris à la petite école. Et aujourd'hui, là-bas, si j'y suis, c'est la petite école où on apprend qu'il n'y a pas que Jules Ferry dans la vie. Il y a aussi des gens comme Ambroise Croizat qui sont les figures emblématiques des progrès sociaux considérables et qui sont l'aboutissement à un moment, enfin une étape glorieuse de lutte très très ancienne pour la solidarité, pour la protection des uns et des autres, et à commencer par les vulnérables, les vieux travailleurs, comme on disait, sur une vieille, très ancienne idée, volonté humaine qui est celle de l'égalité. Depuis ces époques, et dans les temps que nous vivons, c'est l'inégalité qui essaye, qui réussit à s'imposer, mais la lutte est là, la lutte continue. Mais ça a été un épisode extrêmement glorieux, on peut dire, et en tous les cas, une lutte très dure. On peut dire que ces gars-là y croyaient.
Donc là, on est toujours au bistrot, à côté de la gare, d'où est parti Antoine Croizat avec sa famille, ses trois enfants, sa femme, en 1906. Il part à Ugine, dans une autre usine, d'où il se fait licencier très rapidement ensuite. Le père Croizat regagne Lyon, où il devient cheminot. À 13 ans, Ambroise Croizat quitte l'école. Il devient apprenti, devient ajusteur. C'est la guerre. Son père part au front.
Il doit prendre en charge la famille. Et il adhère à la CGT. Très peu de temps après son embauche comme ajusteur dans une robinetterie à Lyon, la robinetterie Seguin. Et Ambroise Croizat, très rapidement, devient un militant important, un militant régional. Il suscite des quantités de grèves dans la région lyonnaise. Et il va se retrouver donc secrétaire de la Fédération des métaux CGTU. Et là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est ce qu'on appelle un militant ambulant. C'est-à-dire qu'il va passer 3 ou 4 ans sur les routes de France, de gare en gare, de train en train, pour susciter, provoquer les grèves. On le retrouve à Marseille, à Bordeaux, dans toutes les grèves du textile, à Tourcoing, à Lille. Et il va de commune en commune, de grève en grève, souvent même de commissariat en commissariat, parce qu'il est arrêté, il est interrogé, il est fiché.
Alors là, ce qui est marrant, c'est qu'il emmène pour vivre, oui, parce que ça, comme il n'a pas beaucoup de sous, il remplit sa valise de La Vie ouvrière, qui est le journal de la CGT.
Oui. Il mange avec la vente de ses Vies ouvrières. Quoi. C'est un militant ambulant, le mot est assez beau. Hein. Et là, sur le chemin de ses luttes, il prend conscience que si on veut freiner, battre, arrêter ce qui est en train de se passer en Allemagne, c'est-à-dire les bruits de bottes, le fascisme, il faut s'unir. Devant les usines, il a affaire aux nervis, des camelots du roi ou des croix de feu. Quoi. Il va au bugne-à-bugne sans arrêt devant les boîtes. Hein, c'est-à-dire il se fait casser la figure par les fascistes. Quoi. Et ça va être un combattant unitaire assez exceptionnel. Il va essayer de réunir le mouvement ouvrier qui va ouvrir la voie au Front populaire en 1936, où il sera ensuite député de Paris.
C'est comme si, parce que Ambroise Croizat, il n'est pas seul. C'est comme si à cette époque-là, il y avait une intelligence collective, il y avait des appareils de formation, il y avait un enseignement des luttes, et c'est pas comme si c'était un génie qui apparaissait sur rien, au-dessus, c'est pas une individualité exceptionnelle au-dessus du néant. Au contraire, c'est comme une intelligence collective dont il est l'un des représentants.
Attends, bouge.
Voilà le taxi qui est arrivé. On va prendre le taxi. On va aller chez toi pour voir les archives sur le Front populaire. Bonne journée, au revoir.
Oui, jeunesse, le soleil est à tous, l'abondance est à tous, la lumière ne se vend pas, profit Dieu du passé mort, l'histoire ne se répète pas, demain la vie commence, demain il y aura du bonheur pour tous les hommes.
Nous sommes les hommes de demain.
Demain, le travail volontaire, demain les loisirs. Demain la liberté, demain l'amour, assez de détresse,
assez de crimes.
Nos mains sont faites pour la caresse, fini vos calculs d'intérêt, fini vos comptes graveleux, fini vos haines, vos nausées, vos jalousies, vos concurrences, vos tripotages et vos servilités. Demain, l'homme ne sera plus un appareil à gros sous. La femme ne sera plus un petit animal qu'on apprivoise. Le vieillard ne sera plus une charge de famille. L'enfant ne sera plus un accident regrettable. Le cœur ne sera plus un porte-monnaie. L'art ne sera plus un métier. La culture ne sera plus un privilège. L'intelligence ne sera plus une foutaise. La vertu ne sera plus un vice. Jeunesse, nous allons au-devant de la vie.
Nous allons au-devant de la vie.
Debout, jeunesse, d'un seul pas, d'une seule pensée, d'une seule épaule.
Tous unis.
Jeunes équipes, êtes-vous conscientes de votre force?
Nous sommes un parti.
Allons-y.
Hourra.
La vie est à nous.
Arrive presque cet accident de l'histoire, qu'est 1936. 1936, Ambroise Croizat est à la fois secrétaire général de la métallurgie, oui. Et il est député. Je dis accident de l'histoire parce que dans le programme du Front populaire, il n'y a rien. Il n'y a pas les 40 heures, il n'y a pas les congés payés, il n'y a presque rien. Ce n'est pas dans le programme, mais ça va entrer dans les faits. Et Croizat va être l'un de ceux qui va porter ça.
Il est par exemple le 9 mai, on le sait, au Havre. Et il est un de ceux qui lance les grandes grèves d'occupation d'usines qui vont commencer à partir de mai 36, juste après l'élection de Blum au pouvoir. On sent bien que là, il le dit lui, on sent bien que s'il n'y a pas cette pression de la rue, de l'occupation d'usines, Il n'y a pas derrière toutes les conquêtes qui vont suivre avec Matignon.
Alors, Ambroise Croizat, il est des deux côtés. Il est du côté de la lutte, oui. Puisqu'il a les pieds au Havre, il a les pieds un peu partout. Oui. Et il est de l'autre côté aussi. Il est du côté de la loi. Il est du côté de ceux qui s'efforcent de transformer ces luttes-là en loi, en conquête pour les travailleurs.
Le 15 juin, il est à Matignon, où on signe les accords, notamment les conventions collectives dont il est l'auteur de la loi.
Et en même temps, cet élan du Front populaire, il va être coupé. Il va être coupé assez net, notamment à cause de toute la pression internationale, la guerre d'Espagne, oui. La montée du nazisme, le fascisme en Italie. Là, en ce moment, on parle beaucoup du CNR, du Conseil National de la Résistance, de son programme, alors qu'à mon avis, il a ses racines. Ses racines, c'est 36. On voit les hommes qui vont mettre en œuvre le programme du Conseil National de la Résistance à la Libération. C'est des gens qui étaient déjà là en 36, comme députés, comme Marcel Paul, comme Ambroise Croizat, qui vont revenir ensuite endurci, aguerri, c'est le cas de le dire, puisque la guerre est passée par là. Mais c'est comme si l'élan du Front populaire avait été coupé par la guerre et par la préparation de la guerre, que cette pression populaire, elle était mise en sommeil, elle était mise entre parenthèses, et que c'était les mêmes, ceux qui avaient survécu, parce qu'un bon nombre de ces militants vont disparaître, mais qui revenaient aguerris, endurcis, pour, sous le nom du Conseil national de la Résistance, mettre en œuvre ce qui avait été les graines d'espoir semées en 1936.
La coupure dans l'espoir, elle est très nette. Elle va être tragique d'ailleurs, hein, parce que celui qui coupe cet espoir, c'est un des fondateurs du Front populaire, hein, Daladier, qui publie en novembre 1938 ce que la classe ouvrière appelle les décrets misères, et notamment le retour sur les 40 heures, sur les congés payés. Daladier a une phrase terrible quand il dit en 1938 « Il faut en finir avec cette loi de paresse et de trahison nationale, en parlant des 40 heures. » Le 30 novembre 1938, c'est la grève, l'échec de la grève contre les décrets misères de Daladier, et le lendemain, c'est la sanction. C'est-à-dire qu'on licencie en masse, il y a plus de 5000 ouvriers, mais des responsables CGT, qui sont licenciés du jour au lendemain, et qui ne vont pas retrouver de boulot avant très longtemps.
C'est la revanche, c'est la revanche du patronat. Là, ouais.
Et d'ailleurs, il dit une phrase, Croizat, il dit... Le 30 novembre 1938, le patronat a opéré le savant triage qu'il attendait depuis 1936.
Nous sommes en guerre.
10 octobre 1939.
Et le silence, vous le comprenez bien,
Édouard Daladier,
est nécessaire au succès de nos opérations militaires.
Président du Conseil des ministres français.
Vous seriez les premiers, je le sais, à blâmer des indiscrétions dangereuses. Il y a quelques semaines, les chefs communistes se présentaient à vous comme de farouches patriotes. C'était, à les entendre, de nouveaux jacobins. Ils annonçaient, dans les meetings, qu'ils seraient à la pointe du combat contre Hitler et contre ses armées. Et il a suffi que les bolcheviks trouvent leur intérêt à s'entendre avec les nazis et à partager avec eux la Pologne pour que ces prétendus nouveaux jacobins fassent l'apologie d'une paix de trahison.
Voilà le pacte germano-soviétique qui va infléchir la carrière et le parcours d'Ambroise Croizat. Il faut rappeler quand même au passage que la signature du pacte germano-soviétique a engendré de très profondes dissensions au sein du Parti communiste français, en désaccord avec l'appareil, 23 députés communistes sur 73 ont démissionné. Il ne faut quand même pas oublier ça. Et beaucoup de militants du Parti communiste à l'époque ont quitté l'organisation. Ambroise Croizat se retrouve en prison.
Et le Front populaire va s'achever encore de manière encore plus brutale pour Croizat, puisque c'est sous la République qu'avec les autres députés communistes, il va être envoyé en prison.
Voilà. Il est arrêté sur le parvis de l'Assemblée nationale le 7 octobre 1939. Il est accusé donc de reconstitution de ligue dissoute après l'interdiction du PC en 1939 suite au pacte germano-soviétique. Il est arrêté sur le parvis de l'Assemblée nationale. Il va vivre à la santé pendant quelques mois et il va traverser 14 prisons en France avec l'exode de 1940, avant d'arriver à Marseille, puis d'être déporté au bagne d'Alger, à Maison Carrée, où là, il va vivre entre les coups, la dysenterie, le sirocco, la douleur. Il va en sortir de là avec un poids de 36 kilos. C'est vraiment la déportation, quoi. Il a des fers aux pieds.
Donc l'homme qui était député quelques mois auparavant, il se retrouve avec des fers aux pieds en Algérie.
Ils sont 27 députés communistes, ce qu'on va appeler les députés du chemin de l'honneur. Parmi eux, il y a Prosper Mocquet, qui va apprendre de la bouche même de Croizat, parce que Madame Mocquet n'est pas arrivée à écrire ça dans une lettre. Madame Mocquet demande à Croizat de dire à Prosper Mocquet, son père, que son fils, Guy Mocquet, vient d'être fusillé à Châteaubriand. Et il va lui apprendre aussi la mort d'un deuxième fils, d'une méningite foudroyante, lorsque la Gestapo menace de l'embarquer avec sa mère, Mocquet.
Les Alliés arrivent et là, ils retrouvent quand même le statut.
Il est libéré en février 1943 et il est nommé président de la commission du travail. Il mûrit là les grandes inventions sociales de la libération en lien avec le CNR en France.
Le programme du Conseil national de la résistance dit qu'il va falloir un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État.
Et ça, c'est mot pour mot la déclaration des droits de l'homme de 1793, des sans-culottes, qui, pour la première fois au monde, met en constitution le droit au travail et à la santé.
L'Assemblée nationale constituante avait décidé par 239 voix.
Radiodiffusion française.
Contre 198.
26 décembre 1945.
De proroger d'une semaine sa dernière session.
Ambroise Croizat.
Ainsi s'est-elle donné le délai nécessaire pour voter parmi d'autres textes d'une importance capitale le projet de généralisation de la sécurité sociale que j'avais eu l'honneur de faire adopter par le gouvernement. Le peuple de France doit savoir que c'est de son effort de production que dépendra en vérité la réalisation pratique de la loi nouvelle, comme en dépend du reste, à tout point de vue, la renaissance de notre pays.
La surprise, c'est moins qu'il y a un beau programme du Conseil national de la résistance, parce que des beaux programmes, on en a eu plein dans notre histoire. Mais ce programme soit appliqué, en tout cas partiellement appliqué. Ça ne le sera pas sur les banques, ça le sera très moyennement sur la presse, encore moins sur la fin de la colonisation. Donc il y a plein d'aspects sur lesquels ça ne sera pas appliqué. Parce qu'un beau texte, dans un moment où il n'y a aucune chance d'être appliqué, comme pendant la guerre, on peut en écrire plein des beaux textes. Mais là, il va l'être. Il va l'être parce que Croizat, là, quand il devient ministre, il met le pied sur l'accélérateur. Parce qu'on se dit, un truc comme la sécurité sociale, c'est un truc gigantesque. Pour installer ça, il va falloir des années, des années. Pour passer les textes, les fignoler. Et bien là, en moins de 6 mois, du 31 décembre au 1er juillet, en un semestre, ça y est, il a tout fait pour que la sécurité sociale, les retraites et ainsi de suite soient entrées dans la loi, en 6 mois. C'est-à-dire que je pense que là, il y a une conscience chez lui qu'il faut battre le fer de l'histoire quand il est chaud. Parce que là, le rapport de force est favorable, et il ne le sera pas éternellement.
Et le rapport de force, il faut quand même le citer parce qu'il est impressionnant. C'est quand même 5 millions d'adhérents à la CGT. C'est un parti communiste à 29% des voix. C'est une classe ouvrière sortie grandie par sa lutte héroïque dans la résistance. Et c'est un patronat mouillé par la collaboration. C'est ça qui fait que ça peut être imposé. Mais il va falloir l'imposer. Et en face, il y a des réticences. Il y a les médecins qui refusent la sécurité sociale parce qu'ils n'admettent pas la fixation des tarifs. Il y a les mutualistes. On prend leurs biens. Il y a la droite, le MRP, qui voudrait revenir aux caisses d'avant. Et il y a cet immense travail collectif, et ça, moi, je suis ébahi par ce travail, d'un peuple anonyme qui bâtit concrètement les caisses de sécurité sociale, souvent des baraques en planches.
C'est-à-dire que là Ambroise Croizat, il fait le texte, mais il dit, attendez, ça, le texte, c'est du papier. Ce qui compte aussi, c'est que ça soit fait dans les faits. Et là, donc, il fait un appel au peuple. Il dit au peuple, c'est à vous de la construire, ça va être votre sécurité sociale, donc c'est à vous de la construire.
Il a de très belles phrases quand il dit, par exemple, un peu partout où il va, il dit « la sécurité sociale n'est pas qu'une affaire de loi, elle réclame une action concrète dans la cité, dans l'entreprise, elle réclame vos mains ». Et là, on voit un peuple, mais souvent dans un enthousiasme indescriptible, bâtir ces premières caisses de sécu, avec tout ce que ça signifie comme création de sections locales dans les mairies, dans les entreprises, avec des agents qui vont sillonner les campagnes pour ramasser les feuilles de soins. C'est des ouvriers, des anonymes qui bâtissent ça, souvent sur leur congé, en dehors de leur temps de travail. Je pense par exemple à une des premières caisses qui a été créée en Savoie, c'est la caisse de Chambéry. C'est une baraque qui est construite avec des ouvriers qui, au soir, après leur boulot, bâtissent la caisse de sécu, quoi. Et puis surtout, la prise en main de la sécurité sociale par eux-mêmes. On voit par exemple ces délégués ouvriers qui vont dans les caisses privées d'assurance demander des comptes et disant à ces caisses privées, maintenant c'est nous qui gérons les accidents du travail. Donc vous donnez les livrets, vous donnez les comptes. C'est nous maintenant qui gérons.
Donc ils vont quasiment exproprier.
Oui, ils exproprient, ils nationalisent. Tout ce qui était du privé devient de l'ordre du public. Et pris en main par des gens qui sont dans des usines, quoi, qui sont derrière les établis, par des syndicalistes ou même des ouvriers tout simples.
Donc ça se construit au sommet avec la loi, oui. Mais ça se construit aussi à la base, voilà. Avec les gens qui veulent l'arracher aux assureurs privés, qui veulent construire leur petite baraque, qui vont récolter les feuilles de soins et tout ça.
Voilà. Et puis on voit ces agents ouvriers sillonnant les campagnes, établissant des permanences dans les entreprises, dans les mairies, pour étendre partout, universellement, cette sécurité sociale.
Monsieur Ambroise Croizat, ministre du Travail, a donné ce matin dans les salons de son ministère, rue de Grenelle, une conférence de presse.
Radiodiffusion française.
Nous sommes venus le trouver ensuite dans son bureau.
2 janvier 1946.
Pour lui demander de préciser pour vous, chers auditeurs, les problèmes qui relèvent plus particulièrement de la compétence de son département ministériel.
Ambroise Croizat.
Le 1er juillet 1946, commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale. C'est au 1er janvier 1947 que les caisses de sécurité sociale assumeront la charge de l'assurance contre les accidents du travail. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Et les assurés âgés vont bénéficier de retraites suffisantes pour assurer la sécurité de leurs vieux jours.
Ambroise Croizat, quand il est ministre du Travail, c'est un peu comme s'il avait la carotte et le bâton. Dans tous ses déplacements, parce qu'il continue à beaucoup se déplacer à travers la France, pour créer ses caisses de sécurité sociale, pour impulser de l'énergie dans le pays, il va voir les ouvriers et il leur dit « c'est pas le moment de faire grève, il faut reconstruire le pays, il faut mener, dit-il, la bataille du rendement et de la production ». Donc voilà, il essaye de calmer les ardeurs à la grève, aux revendications et ainsi de suite. Mais quand le MRP dit « la sécurité sociale c'est bien mais il faudrait peut-être en prendre un peu plus de temps, y réfléchir », lui il sent que le temps on n'en a pas. Et là il dénonce très fort les conceptions vichistes, il dit, en matière sociale du MRP, il y va très fort. Et en gros ce qu'il dit c'est « attention, si vous voulez pas laisser construire la sécurité sociale, laisser construire les retraites, on lâche les chiens ». On les laisse aller partir à la grève. Vous aurez 5 millions de CGT partis à la grève, des gens qui en plus éventuellement ont des fusils, puisqu'on sort des maquis. Et donc il y a toute cette pression qui est mise et qui fait que la droite, la bourgeoisie, elle est obligée de faire ses concessions.
Oui, puis on sent que le vent de l'histoire est en train de tourner là, parce qu'on est déjà en 1947, et bientôt, ça sera l'éviction des ministres communistes, en mai 1947. Et on sent qu'il y a une nouvelle revanche qui arrive. Il y a la guerre froide qui commence. Le plan Beveridge anglais a nécessité 8 ans pour sa création. Et là, en l'espace de 6 mois, 1 an, la sécu a été construite grâce à des gens comme Ambroise Croizat qui étaient constamment sur la brèche.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim. Quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête d'homme, il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement il grince des dents, doucement, car le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé, et il a beau répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer. S'il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain, il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim.
Là, on a un document sous les yeux.
Oui.
C'est la carte d'adhésion à la CGT. Daté de 1951, alors nom Croizat, prénom Ambroise, profession ajusteur-outilleur, adresse 28 rue Daguerre, né le 28 janvier 1901, et là on a juste 2 timbres ouais, de collés.
C'est impressionnant.
Deux timbres collés en janvier, en février, 2 timbres à 50 francs, c'est marqué, et il y a aussi de tamponner sur ces timbres syndicaux, maladie, donc pour janvier et février. Ouais.
Il a payé ses timbres jusqu'au bout, c'est assez émouvant de voir ça, puisqu'il meurt le 10 février 51.
Et là, on ne se rend pas compte aujourd'hui, cet homme a disparu des mémoires, alors qu'il y a près d'un million de personnes qui viennent rendre hommage au Père Lachaise, à ce qu'ils appellent à l'époque le ministre des pauvres.
Sans doute 1 million de personnes qui partent de la Maison des Métallos pour aller jusqu'au Père Lachaise, en défilé, avec des délégations de tous les pays du monde, avec tout le peuple derrière.
Toi, tu avais quel âge en 51?
Moi, j'avais 4 ans. Moi, c'est un personnage qui m'a complètement porté, qui m'a donné envie de faire de l'histoire, qui m'a donné l'envie de faire des études, qui m'a mis en appétit de savoir toutes les racines du mouvement ouvrier. Et c'est un type qui a créé la Sécu et qui ne s'est jamais soigné. Ça m'a toujours frappé, moi, ça. La dernière phrase prononcée à l'Assemblée nationale, elle est magnifique, hein, et on pourrait nous l'entendre comme un appel à suivre ce qu'il dit. Il dit « Jamais nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. » Il dit ça en octobre 50, il a un cancer des poumons, il quitte l'Assemblée nationale et il meurt peu de temps après. Moi, je suis toujours étonné de voir, étonné et pas en même temps, hein, de voir comment il a été gommé de l'histoire. Moi, je pense que ça me dit long sur l'humilité du personnage. Il était communiste, qui n'a pas arrangé les choses. Hein. Et puis ça rejoint aussi toute l'occultation des luttes populaires. Ambroise Croizat, sans les anonymes, sans le peuple derrière, c'est rien du tout, quoi. Et c'est peut-être tout ça qu'on veut nier aussi. Hein. C'est tout l'apport populaire, l'apport des luttes dans l'histoire.
Merci Michel Etchevan. Un bouquin magnifique, Ambroise Croizat, l'invention sociale. Vous aurez toutes les précisions sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. C'était un reportage de François Ruffin. Yann Bouillot et Gilles Gaillard étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés d'Agnès Le Bot et Marina Touillez. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter présente Tiken Jaffa Coli. Découvrez du 13 au 18 juin la semaine africaine et solidaire imaginée par Tiken Jaffa Coli à Paris, avec en clôture un grand concert à Paris-Bercy le 18 juin. Retrouvez Tiken Jaffa Coli dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
16h sur Inter, à demain 15h pour là-bas si j'y suis. Les infos, Corinne Audouin, salut.